Dominique Morin. Morin.
Live. Avec Dominique Morin, Dan Gravel et Dom Dumas. Radio X.
Bon vendredi, Nathalie, comment vas-tu?
Bonjour, très très bien, par ce beau vendredi neigeux.
Oui, neigeux, c'est le début de l'hiver, on passera pas à côté, on le sait.
Le dernier hiver, ça arrivera pas.
Non, visiblement, ça arrive même beaucoup plus tôt. J'ai l'impression que parti comme c'est parti là, on va avoir de la neige jusqu'en juin. Je sais pas de quoi ça a l'air à Montréal, mais ici, on a jusqu'au milieu du tibia.
Oh wow, non, c'est pas tant que ça. Bien que la neige qui est tombée n'a pas réellement fondu, ce qui est quand même assez inhabituel pour ce mois-ci. Mmh. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, la planète se réchauffe, donc voilà, on en voit les conséquences. Hein?
Oui, effectivement. Je vais faire du pouce là-dessus. Souvent, puis j'adore le texte de ce matin, parce que j'ai souvent dit, les Québécois aimeraient tellement ça, être les héros de la planète. Les Québécois aimeraient ça, être le chouchou du prof, celui que les Nations Unies pointent du doigt en disant, grâce à eux, la planète va mieux. Les Québécois pensent sauver le monde. Ils ont fondé des garderies en disant « Tout le monde va nous copier ». Ils ont fondé les cégeps en disant « Tout le monde va nous copier ». Puis c'est un peu la même chose qu'on voit avec les cibles sur les GES.
Oui, tout à fait. Mais en fait, tu sais quoi? Pour faire du pouce à mon tour sur ce que tu viens de dire, que les Québécois aiment être les premiers de classe, ils veulent sauver la planète. Moi, j'ai rien contre être première de classe, mais ça dépend de quelle classe, d'abord.
Ouais,
et sauver la planète, si on commençait par se sauver nous-mêmes, si on commençait par s'assurer que tout le monde chez nous a un toit, mange correctement, je pense que ça serait déjà un bon départ. Donc, avant de vouloir sauver la planète entière, c'est ça. Regardons d'abord comment sauver un Québécois à la fois de la situation dans laquelle il se trouve. Et à cet égard-là, j'ai l'impression que nos priorités sont peut-être mal dirigées.
Bien, il y a ça, par exemple, c'est que j'ai l'impression que, si on dit les Québécois, mais c'est beaucoup les politiciens, puis encore là, provincial, fédéral, ils ont un petit peu décroché, tranquille. Tu sais, ils ne sont pas à COP 30. Mm-hmm. Mais le danger que je vois, là, beaucoup, il y a eu une lettre d'ailleurs qui a été publiée hier de la main de 24 maires et mairesses du Québec. Là. Ils sont en train de se rabattre. Les groupes environnementaux se sont beaucoup rabattus dans les dernières années sur le municipal, qui est le niveau de gouvernement où les gens votent le moins, mais qu'on essaie de passer de plus en plus des mesures puis des règles pour côté environnemental, qu'on impose aux gens en se disant, c'est pas grave, de toute façon, ils votent pas.
C'est à ce niveau-là que leur stratégie est absolument géniale.
Oui.
Et que plutôt que d'essayer d'aller tout à fait en haut et de faire en sorte que les différents paliers se réajustent par la suite, non, ils ont trouvé la porte d'entrée où justement, en fait, la porte qui est ouverte, dans laquelle on peut rentrer facilement, et dans laquelle on peut, à ce moment-là, une ville à la fois, mettre toutes sortes de réglementations, de contraintes, de différentes interventions de l'État pour atteindre leur agenda. Il faut leur reconnaître au moins ça. Ils ont été très stratégiques dans leur façon de procéder, c'est-à-dire qu'ils sont allés là où personne ne regarde pour s'infiltrer. Et en fait, on voit le résultat. Les villes ont carrément changé de paysage au cours des 10 dernières années. Moi, je suis tout le temps abasourdie de voir à Montréal comment la place qui est laissée à la voiture a été totalement atrophiée au fil des années, et la place laissée à la bicyclette, même en plein hiver, même des pistes cyclables qui sont pratiquement pas utilisées, c'est pas grave. Elles sont là, elles sont déneigées, et pendant ce temps-là, les automobilistes, il y a plus de trafic parce que les rues sont moins larges. Donc, ça suffit qu'il y ait une bordée de neige, qu'il y ait de la neige empilée, des petits amoncellements de neige sur le côté. Le trafic devient épouvantable.
Là, le ministre Dréville invite les Québécois à participer à une réflexion. Évidemment que les Québécois ne participeront pas à la réflexion. Ceux qui vont participer, c'est les lobbies, c'est les groupes qui veulent absolument qu'on fasse changer les choses. Ça finit toujours tronquer un peu le résultat. Mais on a déjà suggéré une réduction de 45% d'ici les cinq prochaines années. Mais le chiffre qui me fait halluciner dans ton texte ce matin, Nathalie, c'est 85% de réduction des GES d'ici 2045.
Oui, Ben, c'est un comité formé par le ministère de l'Environnement pour réfléchir justement à l'effort qu'on devrait faire par rapport aux gaz à effet de serre. Parce que la loi précédente, c'était 37,5% jusqu'à cette année, mm-hmm. jusqu'au 31 décembre. Et le 31 décembre, donc il faut revoir les cibles. Et donc le comité en question est très, disons, ambitieux, 45% d'ici 2030 et effectivement 85% d'ici 2045. Les mots me viennent même pas tellement c'est énorme comme effort à faire pour réduire les gaz à effet de serre.
Concret, Nathalie, à 85% oui. de réduction, là, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui a un char, puis il n'y a plus personne qui mange de la viande.
Ça ressemble un petit peu à ça, effectivement.
Ça veut dire qu'on les sous-contracte aussi nos GES, on les fait faire par quelqu'un d'autre.
Ben, si on veut garder un certain niveau de vie, un certain niveau de confort, il y a beaucoup de production qu'on dira ben on peut plus la faire ici, mais tout ce qui est pas fait ici, et c'est déjà le cas, j'invente rien dans mon texte de ce matin, beaucoup d'entreprises font ce que les Américains appellent du greenwashing. Greenwashing, c'est-à-dire que dans leur bilan, ils montrent que oui, l'entreprise en tant que telle a réduit ses émissions, mais ce qu'on apprend aussi, c'est que la production, la partie de la production qui générait des émissions, elle a été sous-contractée quelque part ailleurs dans le monde. Donc globalement, c'est zéro impact. Mais ce que je trouve encore plus décourageant, c'est que, ok, on nous dit il faut faire quelque chose, les gaz à effet de serre, réduction stratosphérique de ces émissions-là, très bien. Mais admettons, moi je me dis, ok, poussons la logique au maximum, suppose que tu effaces le Québec de la carte. Même s'il n'y a pas de transfert de production ailleurs dans le monde, on gomme sur la map, on efface le Québec et tous les Québécois avec. Ça changerait quoi exactement en termes de la production totale? En fait, le Québec, c'est 0,13% de toutes les émissions mondiales. Donc, ça veut dire que même si le Québec n'existait pas, quel serait l'impact sur les émissions? Ben, 0,13%. En d'autres termes, nul. Et donc, l'impact sur la température serait tout aussi nul.
Il y aurait zéro impact sur les émissions, mais beaucoup, beaucoup d'impact dans nos portefeuilles.
Ah, mais ça, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas atteindre le genre d'objectif qui a été fixé sans conséquences. Et les conséquences, elles prennent toujours la même forme. C'est déréglementation ou toute forme d'ingénierie sociale, finalement, et de la fiscalité, incontournablement.
Et c'est là que, quand, parce que souvent, puis tu en parles également dans ton texte, quand on dit que ouais, mais ça ne change rien, nous autres, c'est le Québec, on arrêtait totalement tout, les gens vont nous répondre, les bien-pensants, l'élite va nous répondre, ouais, mais les gens nous regardent, on doit donner l'exemple.
On fait notre part.
Puis là, je fais un lien avec ce que je disais au début, il n'y a personne qui nous regarde, Nathalie.
Ben non, absolument, il n'y a personne qui nous regarde. Et je te dirais même mieux que ça, les pays qui produisent pour nous, que ce soit la Chine, l'Inde, ces grands émetteurs-là, ils sont morts de rire. Parce que grâce à notre, je dirais, autoflagellation climatique, on déplace la production vers ces pays-là. Eux, ça ne les dérange pas quelle méthode ils utilisent pour produire. Les usines au charbon, ça ne les dérange pas. Donc, on délocalise notre production, on envoie des emplois à l'étranger, on paye des taxes supplémentaires et le climat n'en profite pas, mais il y a d'autres pays qui en profitent. Donc, c'est un petit peu ironique, notre bonne volonté. En fait, les bons sentiments, moi je dis toujours, je m'en fous des bons sentiments que les gens peuvent avoir ou ne pas avoir. Ce qui est important, ce sont les résultats concrets dans la vie de tous les jours.
Puis, en fait, pourquoi les politiciens font ça? Hein? C'est parce que on écoute, c'est toujours la même affaire finalement, on écoute un peu trop les lobbies de gauche.
La classe politique, tu vois, il y avait... En économie, il y a toute une école de pensée qui se spécialise pour essayer de comprendre, on appelle ça l'école des choix publics, essayer de comprendre comment les politiciens prennent leurs décisions. Mm-hmm. Parce qu'on part toujours du principe que un politicien en position de pouvoir, il est élu par le peuple, donc il a pour intérêt l'intérêt du peuple. Et donc ses décisions sont orientées vers le bien-être collectif. Ce que la l'école des choix publics nous montre justement, c'est que ça se passe pas comme ça. Dans la réalité, les politiciens cherchent d'abord et avant tout leur popularité. Ils veulent être élus, ils veulent être réélus. C'est vrai que ça, c'est pas une grande révélation, mais c'est bien de la de l'articuler autour d'un cadre d'analyse qui est quand même rigoureux. Et donc ils essayent de voir où est-ce que leur intervention, leur discours, leur implication va être la plus payante, tout simplement.
Donc, c'est électoralisme, à la limite populisme, le mot qu'ils veulent pas entendre, ça ressemble pas mal. Ce genre d'avis-là, mais 85% de GS. 85% de GS, Nathalie. 85% de GS. On va tous bien rester chez nous, là.
Et tu vois, qu'on veut faire quelque chose pour protéger l'environnement, moi, j'ai rien contre ça. Au contraire, on a des activités qui sont très polluantes, mais on met notre accent sur les gaz à effet de serre. Alors que on nous dit la science est... Il y a un consensus scientifique, c'est réglé, alors que c'est pas vrai, il n'y a pas de consensus scientifique, c'est juste qu'on ne donne pas la parole aux scientifiques qui n'adhèrent pas à ce consensus-là. Mais en même temps, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on a des activités qui nous amènent pas des activités, je dirais, un mode de fonctionnement, la société, un mode de fonctionnement qui nous force, dans certains cas, à consommer et à polluer. Je pense, par exemple, à tout ce qui est obsolescence programmée. Donc, le fait que les fabricants conçoivent leurs produits pour qu'ils ne durent pas au-delà d'une certaine limite qui est quand même relativement courte. On sait que, je sais pas, le grille-pain, le micro-ondes, peu importe, il va pas durer au-delà de 12 mois, 24 mois, 36 mois, peu importe. Donc l'obsolescence programmée, après ça on nous dit, les consommateurs, on est dans une société de surconsommation. Mais je m'excuse, je n'apprécie pas particulièrement, ça me procure pas de satisfaction particulière de remplacer mon grille-pain tous les 2 ans. Non. Donnez-moi-en un qui fasse la job et qui la fasse bien pour les 10 prochaines années, j'ai pas de problème à le garder. C'est pas comme si, en tant que consommateur, on veut tout le temps renouveler les produits que l'on a. Le problème de l'obsolescence programmée, c'est qu'on nous oblige à remplacer les produits que l'on a parce que ça a été conçu volontairement pour briser dans un laps de temps relativement court.
Meilleur exemple, Nathalie, j'avais un frigidaire qui a rendu l'âme il y a environ un an. C'était notre deuxième frigidaire, il était dans le sol, ça avait été donné par des voisins. Le frigidaire était plus vieux que moi. Puis j'ai 43 ans, là, donc lui, il t'a fait vraiment longtemps. Je peux dire que les autres frigidaires que j'ai chez nous, ils ne t'offront pas aussi longtemps.
On a encore les amplifs d'il y a 40-50 ans dans le salon. Merci infiniment, Nathalie, de nous avoir parlé ce matin. Puis on invite tout le monde à aller lire ton texte ce matin dans le journal.
Merci beaucoup.
Merci infiniment. Bon week-end, Nathalie Grelby, à qui on parle. Un vendredi sur deux, on était rendu là. Il sera de retour, évidemment, dans 2 semaines. Il est à quelle heure, là? Il est 8h49, on revient. C'est Max Trouman qui sera là au retour.
Montréal, nous sommes live.
On revient dans pas long.
Désolé.
Radio X.